Rebonjour. Alors, si vous êtes comme moi, vous devez avoir des préjugés envers les autres. Donc, c'est une drôle de façon de commencer, mais lorsqu'on est enfant ou peu importe où on a toujours des bonnes façons pour expliquer comment les autres, ils l'ont moins bien l'affaire que nous. Si on est de la ville, on dit « Ah, oh, mais le monde de la campagne, eux autres, ils sont comme ça. » Ou si on est de la campagne, on dit « Ah, oh, le monde de la ville, ils arrêtent pas, ils sont ben trop stressés. » Ou si on habite en ville, comme la plupart d'entre nous, on a toujours des raisons de placer les autres dans des catégories. « Ah, oh, ouais, mais eux, c'est Laval, eux, c'est les banlieusards. » Ou « Oh, ah, oh, Montréal, habiter au centre-ville de Montréal, l'air, la... » Les autobus, le métro, c'est pas pour moi. Au contraire, ah, la vie urbaine, je comprends pas pourquoi tout le monde n'aime pas ça. Ou c'est facile de catégoriser. Ah, les vieux sont comme ça. Ah, les jeunes sont comme ça. Puis même si on se regroupe avec tout du monde du même âge, on étudie dans un certain domaine, puis là, ah, mais le monde des autres domaines d'études, eux, ils sont comme ça. Si on étudie dans un certain domaine, il y a toujours des domaines rivaux qui, eux, ils l'ont moins l'affaire. Eux, ils comprennent pas aussi bien que nous la vérité. Ou bien ça peut être une autre école. N'est-ce pas qu'il y a toujours une rivalité envers les autres écoles? Alors, l'Université de Montréal et l'Université McGill. Ou l'UQAM et l'Université de Montréal. L'Université de Sherbrooke. Ah non, mais eux autres sont comme ça. Ou dans les domaines d'emploi, si on travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis là, on entend une mauvaise histoire sur l'hôpital Santa Cabrini. Ah, bien sûr, Santa Cabrini, c'est normal. Ou vice-versa. On a toujours des bonnes raisons pour mettre tout le monde dans un même paquet, puis se sentir supérieur par rapport aux autres. Au Québec, une grande tension pendant des siècles entre les francophones et les anglophones. De plus en plus, ça se diversifie. Alors, je pense que c'est de moins en moins présent, mais au niveau du Canada, il y a toujours une tension qui demeure au niveau de la langue, au niveau de la nationalité aussi. On peut toujours avoir des préjugés envers les gens d'autres nationalités. Ah, les Québécois, ils sont comme ça. Ah, les Haïtiens, ils sont comme ça. Ah, les Arabes, ils sont comme ça. Ah, qu'on évite à souligner les faiblesses perçues d'un groupe et mettre tout le monde dans le même panier. Est-ce que c'est juste moi ou est-ce que c'est notre expérience à tous? N'est-ce pas, hein? Peut-être qu'on n'en est pas tellement conscient ou on ne veut pas en être trop conscient, mais ça fait partie de l'expérience humaine. Ça fait partie d'être pécheur, ça fait partie d'être orgueilleux. Ce qu'on ne comprend pas ou ce qui nous est peu familier, on a une rapide tendance à le juger et à le dénigrer. Eh bien, les Juifs du début de l'ère chrétienne n'étaient pas différents de nous. Ils étaient aussi remplis de préjugés raciaux. Ils avaient tendance à juger selon l'apparence et selon la circoncision. Alors, pour les Juifs, eux, ils comprenaient, ils étaient le peuple élu par Dieu, que Dieu avait choisi, qu'il avait sorti d'Égypte. Il les avait amenés à lui. Dieu avait amené le peuple d'Égypte à lui. Et avait appelé Israël à être une lumière parmi les nations. Malheureusement, Israël, dans leur histoire, s'était mis à adorer les dieux des autres nations, à se mélanger avec les autres nations, à se lancer dans la débauche et l'idolâtrie avec les autres peuples, et Dieu les a emmenés en exil à cause de leur désobéissance. Mais à leur retour, ils ont voulu être tellement rigides dans leur désir de plaire à Dieu, que l'apparence et l'appartenance ethnique étaient devenues une barrière immense entre les Juifs et entre les non-Juifs. Alors, les Juifs étaient fiers d'être membres du peuple d'Israël. Cependant, dans leur désir de se garder purs pour l'Éternel, ils avaient oublié leur appel à être une lumière parmi les nations. Et Jésus était venu ouvrir le plan du salut au-delà du peuple d'Israël. Jésus est venu d'abord pour Israël, mais pour que ça s'étende au-delà. Alors, le texte qu'on va regarder aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Actes chapitre 10. C'est un texte fondamental pour ce qui est de l'ouverture de l'Évangile et de l'Église à toutes les nations. C'est pour ça que j'ai appelé la prédication ce matin, l'Évangile pour toutes les nations. Il y a deux semaines, on a commencé notre série dans les Actes des Apôtres à partir du chapitre 9, en mission avec Jésus. On a vu un texte très important, la conversion d'un persécuteur de l'Église, Saul de Tarse, qui Jésus lui est apparu sur la route de Damas et il a cru en celui qu'il persécutait. Et c'était pas mal l'apparition de ce personnage-là, Saul, qui porte aussi le nom Paul. Ça va être le personnage principal de la suite des Actes, mais pas encore. Aujourd'hui, on est de retour avec Pierre, qui était un peu le chef des 12 apôtres, celui de qui Jésus avait dit aussi « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. » Je te donne les clés pour les clés du royaume. Qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, encore un petit peu d'études ou un petit peu de résumé, puis on replonge dans notre texte. Au début des Actes des apôtres, les apôtres étaient dans la prière, dans l'attente du Saint-Esprit, et Dieu envoie son Saint-Esprit d'une façon miraculeuse. Ça se manifeste parmi les disciples qui sont là. Ils se mettent à parler en toutes sortes d'autres langues en annonçant les louanges de Dieu. Lors de la Pentecôte, la fête de Jérusalem, il y a des gens de partout. Et Pierre annonce l'Évangile. Il parle de Jésus qui a été crucifié, mais qui est ressuscité des morts. Et par qui on peut avoir le salut? Par la foi en son nom. Et 3000 personnes, des Juifs qui venaient d'un peu partout, se convertissent à l'Évangile, deviennent, c'est le début de l'Église. Mais ça, c'est encore juste des Juifs. Mais Jésus avait dit, au début des Actes des Apôtres, un texte très important, un verset très important que peut-être vous connaissez bien, dans Acte 1, au verset 8, Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans les premiers chapitres des Actes, les chapitres 1 à 7, on voit les disciples être les témoins de Jésus à Jérusalem, mais pas en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Dieu semble envoyer la persécution pour que les Juifs soient dispersés et qu'ils annoncent l'Évangile autour d'eux. Et là, dans toute la Judée et même en Samarie, auprès des Samaritains que les Juifs n'aimaient pas, il y a plusieurs disciples de Jésus qui vont leur annoncer l'Évangile, Philippe entre autres, et plusieurs Samaritains se convertissent et même ils font venir Pierre et les apôtres pour leur imposer les mains et reçoivent le Saint-Esprit de la même façon que les Juifs à Jérusalem. Ils disent « Wow! Même les Samaritains sont bienvenus dans le royaume de Dieu. Incroyable! » Mais les païens, les non-Juifs, ah, ça c'était autre chose. Et pour Pierre, qui avait entendu clairement de Jésus cet appel à étendre l'Évangile à toutes les nations, on dirait qu'il ne l'avait pas encore compris. Et dans le texte qu'on va voir aujourd'hui, Dieu va rendre ça particulièrement clair à Pierre. Et il va l'étendre, va l'envoyer à Césarée chez un homme qui s'appelle Corneille. Alors, avant de se lancer dans le texte, prions ensemble. Seigneur notre Père, merci parce que tu es un Dieu salutaire, un Dieu qui sauve. Merci d'avoir envoyé Jésus pour être un très grand sauveur, Seigneur. Merci pour ce message de la réconciliation avec toi qui est possible par Jésus, que tu nous appelles à proclamer parmi toutes les nations. Oui, Seigneur, on est loin de Jérusalem ici, puis on te remercie de ce que ce message est venu jusqu'à nous. On veut répondre à ton appel, de l'apporter au-delà. Éclaire nos yeux, Seigneur, à travers ta parole, ce matin, on prie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, au début de Actes chapitre 10, je ne vais pas lire le texte, je vous encourage à lire à la maison, je vais juste lire des petits versets ici ou là. On voit un homme qui s'appelle Corneille. Corneille est un centurion romain. Donc, il n'est pas juif d'origine, il est probablement venu de Rome. Il est un centurion. dans le régiment ou la cohorte italienne qui est basée à Césarée. Donc, est-ce qu'on peut avancer de deux diapos? J'ai mis une petite carte. Donc, voici une carte de la Palestine à l'époque du 1er siècle. Les deux cours d'eau, on a la mer de Galilée, le Jourdain qui descend jusqu'à la mer Morte. Jérusalem est vis-à-vis le haut de la mer Morte. Jérusalem est ici. C'est là que l'Église a commencé. Jésus, lui, avait eu son ministère, la majorité, en Galilée, mais il venait à Jérusalem aussi. Et là, notre... Oh, wow! On est à Césarée, ici. Césarée, qui était une ville qui a été nommée selon César Auguste. Donc, ce n'est pas les Juifs qui ont voulu appeler une de leurs villes Césarée. C'est les Romains qui étaient les envahisseurs, qui étaient ceux qui avaient le contrôle. Donc, César Auguste a nommé cette ville-là Césarée, d'après son propre nom, comme le grand conquérant Alexandre avait nommé la ville Alexandrie en Égypte. Alors, Césarée, c'était un port très important, c'était la capitale administrative de la province de Judée. Et cette ville-là se situait à environ 50 km au nord de la ville de Joppé, où se trouvait Pierre à ce moment-là. Donc, on est à peu près à 50 km à distance, en toute distance, que ce soit à marche ou en avion, c'était à 50 km. Puis Corneille n'était pas un Romain normal. Corneille était un Romain qui craignait Dieu. Les Romains, à l'époque, comme les Grecs, étaient polythéistes. Ils croyaient dans le panthéon romain, donc Zeus, Vénus, Mars, les différents dieux de la mythologie gréco-romaine. Mais Corneille ne croyait pas en ces dieux-là. Il croyait en un seul Dieu créateur. Il croyait que le Dieu des Juifs, c'était le vrai Dieu. Il était ce qu'on appelle un craignant Dieu. Il craignait Dieu, même s'il n'était pas lui-même juif et même s'il n'avait pas été circoncis. Ça dit au verset 2 qu'il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Donc, on va lire ensemble à partir du verset 3. Moi, je lis dans la version Second 21. Vers 3 heures de l'après-midi, Corneille vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille! » Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur? » L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. « Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur racontait tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Dieu s'apprête à faire quelque chose de très important dans ce chapitre-ci, dans les Actes. Il s'apprête à ouvrir clairement l'Évangile parmi les non-juifs, parmi les païens, comme nous tous sommes. Païen, ça veut dire non-juif. Un autre mot qu'on utilise aussi, c'est le mot gentil, qui est plus commun en anglais, gentile. C'est pour parler des gens qui n'étaient pas juifs. Ce n'est pas qu'il était gentil versus méchant. Gentil, dans ce sens-là, avec un G majuscule, ça veut dire non-juif. Alors, cette vision-là d'un ange qui apparaît à Corneille, va chercher Pierre, Simon Pierre, qui se situe non pas à Jérusalem, mais qui se situe à Jaffa, ou à Joppé, c'est la même ville. Alors, Corneille envoie deux serviteurs et un soldat pour aller chercher Simon Pierre. Ensuite, on change de perspective, puis on sera à Jaffa ou à Joppé pour la suite de l'histoire, au verset 9. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase, où il eut une vision. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le considère pas comme impur. » Qu'est-ce que cette vision pouvait bien vouloir dire? Probablement que Pierre s'est demandé, « Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je viens vraiment d'avoir ça? » Puis ça dit au verset 16, « Cela se produisit trois fois. » Et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Donc, à trois reprises, il y a cette nappe avec des animaux de toutes sortes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les Juifs, une des choses qui les distinguait des autres peuples était les lois alimentaires que Dieu leur avait données. Dans Lévitique 11, je crois, Dieu leur a indiqué clairement quels étaient les animaux purs dont ils pouvaient manger et les animaux impurs dont ils ne pouvaient pas manger. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la nourriture cachère. Donc, l'exemple le plus commun, c'est le porc qui est exclu de l'alimentation des Juifs, puis des musulmans aussi, c'est le cas, parce que c'est un animal que Dieu avait déclaré impur. Donc, est-ce qu'il y avait des raisons hygiéniques? Peut-être pas. C'était une façon que le peuple d'Israël allait être différent des autres nations, allait démontrer qu'ils étaient mis à part pour l'Éternel. Mais là, Dieu lui montre tous ces animaux-là, lui dit, tu y manges. Puis là, il y avait de toutes sortes, là. Oui, il y avait peut-être des animaux purs, mais mélangés avec des reptiles aussi, quelque chose qui a dû probablement lever le cœur à Pierre qui voyait ça. C'est comme certains d'entre vous être des fins gourmets de voir des mets ensemble qui ne vont pas du tout ensemble. De dire, ah, mais voyons donc pourquoi est-ce qu'on a présenté ça ensemble. Ça ne peut pas se manger, ça, c'est pas un repas qui va ensemble. Mais le Seigneur lui dit ensuite, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Wow! Donc, Dieu est en train de déclarer toute nourriture pure. Et pour être certain que Pierre ne pense pas que c'était juste une impression qu'il avait eue ou qu'il avait juste vraiment faim, là. C'était pour ça, il était en train de prier, peut-être qu'il jeûnait, il avait vraiment faim, c'est pour ça qu'il a vu de la nourriture un peu bizarre. Mais trois fois, la vision se répète. Dieu est en train de lui donner un message, il voulait un message très clair. Pierre avait de forts préjugés envers les non-juifs. Et Dieu voulait percer au travers de ses préjugés pour se rendre jusqu'à son cœur, pour qu'il soit prêt à reconnaître que Dieu voulait étendre l'Église au-delà des Juifs. On continue, verset 17. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, « Il y a trois hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ses hommes, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici? » Ils répondirent, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Donc, encore une fois, là, alors que Pierre se demandait « Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a envoyé ça, cette vision-là? » le Saint-Esprit lui parle d'une façon probablement différente et lui dit, au verset 19, « Il y a trois hommes qui te cherchent, lève-toi, descends, pars avec eux, car c'est moi qui les ai envoyés. » Donc, probablement des non-juifs. Et Paul les accueille où il est, ils vont coucher là et le lendemain, ils vont se rendre à Césarée, chez Corneille. On continue au verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Donc 50 kilomètres de marche, ça leur a pris probablement qu'ils sont arrivés la deuxième journée. Donc ils ont commencé à marcher puis arrêté pour la nuit et continuer la fin de la route le deuxième jour. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il rentra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un Juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Alors Pierre a compris le sens de la vision que Dieu lui avait donnée. Il était question d'animaux à manger, mais Pierre a compris que la raison pour laquelle Dieu lui avait donné cette vision-là, ça allait plus loin. C'est que non seulement la nourriture que les païens mangeaient n'était pas impure, n'était plus impure. Jésus avait annulé ça. Entrons dans Marc 7, 14 à 19. Marc mentionne que Jésus avait rendu toute nourriture propre à ce moment-là. Mais là, Dieu est en train de montrer à Pierre que les gens de toutes les nations, même s'ils n'étaient pas circoncis, même s'ils n'étaient pas juifs, même s'ils n'étaient pas d'une ethnie que Paul avait particulièrement en honneur, que Pierre n'avait pas particulièrement en honneur, qu'aucun être humain ne doit être déclaré souillé ou impur. Pierre avait compris, c'est pour ça qu'il était venu. Alors, les Juifs, à l'époque, n'auraient pas eu d'objection à ce qu'un non-Juif vienne manger chez eux, mais eux ne seraient pas allés manger chez un non-Juif parce qu'il y avait toutes sortes de choses rituellement impures dans la maison. C'est pas qu'ils auraient eu un péché, mais ils n'auraient pas pu ensuite aller présenter d'offrandes ou de sacrifices s'ils étaient mis en présence de cette impureté-là. Et c'était vraiment un grand tabou, c'était vraiment un grand pas pour un Juif d'aller faire ça. Et vous allez voir un petit peu plus loin, lorsque Pierre va revenir à Jérusalem, tout le monde va lui sauter dessus puis lui dire « Pourquoi t'es allé manger chez des païens? » Alors, il y avait vraiment une méchante grosse barrière entre les Juifs et les non-Juifs. Et Pierre est en train de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Alors, Corneille, au verset 30, répond à... Il explique à Pierre la vision qu'il a eue de l'ange qui il dit « On m'a dit d'aller chercher. » Fait que je suis allé te chercher. Et là, Pierre est arrivé. Il dit au verset 33, « Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Wow! Est-ce que ça vous est souvent arrivé lorsque d'avoir des gens qui vous ont dit « Alors, j'attends que tu me dises tout ce que Dieu t'a ordonné de dire. » toute une réception des gens qui sont prêts à entendre, qui craignaient Dieu, qui savent que Dieu a organisé cet événement-là pour amener Pierre. Et que c'était un moment vraiment spécial dans l'histoire du salut. Alors Pierre se met à parler et il raconte, il explique la vie qui peut changer toute vie. Il parle de la vie de Jésus, de ce que Jésus a fait pour changer n'importe qui se confie en lui. Alors, je vais lire le discours que Pierre a donné. Donc, probablement que ça prend 2 minutes à lire, probablement que Pierre a parlé plus que 2 minutes. Ça doit être un résumé de ce que Pierre a dit, comme la majorité des sermons dans les Actes. Alors, Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable parce que Dieu était avec lui. » Donc, Pierre commence à parler du ministère de Jésus en parlant de son baptême, le fait que Dieu a versé sur Jésus son Saint-Esprit pour lui donner la puissance de faire les œuvres qu'il a faites. Et le verbe qu'il a été oint, c'est le même sens que le mot Messie. Le mot Messie, le Messie de Dieu, ça veut dire loin de Dieu. Messie, c'est un mot en hébreu. Son équivalent en grec, c'est Christ. Et en français, la traduction, c'est oint. Donc, au lieu de parler de Jésus-Christ, on pourrait parler de Jésus-Messie ou Messie oint de Dieu, celui qui a reçu le Saint-Esprit pour une œuvre spéciale. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait maintenant rempli de l'Esprit-Saint? Il est allé, il a fait le bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Alors Jésus, si vous lisez les évangiles, on le voit faire de grands miracles, chasser des démons, on le voit enseigner aussi. Verset 39, Pierre dit ce que lui a vu. « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix ou sur le bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Pierre arrive ensuite au cœur du ministère de Jésus, ce que Jésus a fait, la raison pour laquelle il est venu, pour se rendre jusqu'à la croix. Et le mot que Pierre utilise ici, c'est, dans ma version, ça dit la croix, mais dans l'original, c'est le bois. Et dans Galates 3, on voit que c'est une référence à une malédiction que Dieu avait donnée dans Deutéronome. Maudit était celui qui était attaché ou pendu au bois. Jésus, lorsqu'il a été cloué sur la croix, a été maudit de Dieu pour les péchés de l'humanité. C'est-à-dire que la malédiction que nous méritons à cause de notre rébellion contre Dieu, parce que chacun cherche à vivre sa vie de sa manière, ou à attirer la faveur de Dieu par nos bonnes œuvres, par nos accomplissements. Eh bien, ce jugement de Dieu a été placé sur Jésus à la croix. Et il est mort frappé pour nos péchés. Sauf que c'est pas terminé là. Au verset 40, Pierre dit, « Dieu l'a ressuscité le troisième jour et je l'ai vu vivant. » Et il a mangé avec nous, il a bu avec nous, c'était pas juste un esprit, on l'a vu physiquement, corporellement. Il a marché avec nous et c'est celui que Dieu a prévu pour être le juge des vivants et des morts. Sauf que ça finit pas là. Au verset 43, possiblement le verset le plus important de tout ce discours, il dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Tous ceux qui se détournent de notre façon de vivre notre vie et qu'on se confie en Jésus seul, qu'il est notre seul espoir pour être réconcilié avec Dieu. Il est notre seul espoir pour être pardonné de nos péchés. Il dit que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dieu est tellement majestueux, saint, qu'il ne peut pas voir l'horreur de notre péché, de notre rébellion contre lui. C'est pour ça qu'il n'est pas possible pour nous de, par nos bonnes œuvres, annuler le mal qu'on a fait. Quelqu'un qui serait condamné pour une certaine offense ou un récidiviste, qui pourrait dire « mais j'ai fait mes heures de bénévolat. Oui, je sais que j'ai encore conduit en état d'ébriété, mais j'avais fait mes heures de bénévolat. » Mais ça n'annule pas le mal qu'on a fait. Et toutes les bonnes œuvres qu'on peut faire ne vont pas annuler notre culpabilité passée. Il faut que ça puisse être lavé, il faut que ça puisse être jugé. Et Dieu a été à la fois miséricordieux et juste. En punissant le coupable, non pas le coupable, mais en punissant son propre fils, Dieu venant se mettre à notre place, pour subir à notre place, son propre jugement. Et de cette façon, par tous ceux qui placent leur foi en Jésus, nous pouvons être pardonnés de tout péché et être réconciliés avec Dieu, recevoir par Jésus la vie éternelle. Ça, c'est le message de l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que Pierre venait de réaliser que ce n'était pas juste pour les Juifs dans toutes les nations, mais que c'était pour toutes les nations, pour vrai, incluant tous les non-Juifs. Et Dieu le prouve d'une façon puissante à Pierre, comme ça au verset 44. « Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Tous les croyants circoncis, tous les Juifs qui étaient venus avec Pierre, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit est déversé même sur les non-Juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Alors, Dieu a démontré d'une façon puissante. C'était la façon la plus puissante qu'il aurait pu démontrer que le salut était pour tous les non-juifs comme il était pour les juifs, pour tous ceux qui se repentaient de leurs péchés, qui se détournaient de leurs péchés pour se tourner vers Jésus. Alors, même les non-juifs ont reçu le Saint-Esprit de la même façon que les juifs l'avaient reçu à la Pentecôte. Et ils n'en reviennent pas. Ça dit, ils sont stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. Allez, ils n'étaient pas circoncis. Waouh! Alors, Pierre pose la question, eh bien, c'est une évidence. Dieu est plus grand que nous. Il a décidé quelque chose qu'on, nous, on n'aurait pas fait, mais c'est probablement pour le mieux, pour sa gloire. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous? Et là, tous ceux qui étaient là, qui avaient cru en Jésus, qui avaient reçu le Saint-Esprit, sont baptisés, eux aussi. Ils sont joints à l'Église. Alors, ensuite, Pierre va rentrer à Jérusalem, au chapitre 11, et versets 1 à 18. Ça dit, je lis juste les premiers versets. « Les apôtres et les frères qui étaient en Judée, apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. Et lorsque Pierre monta à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Et là, Pierre va leur expliquer ce qui vient de se passer. Alors, vous savez, à l'époque du Nouveau Testament, on ne pouvait pas faire copier-coller, comme on fait facilement avec les ordinateurs. Si on voulait que le texte soit répété, il fallait qu'il soit réécrit au complet. Et ce n'était pas aussi facile que prendre un crayon à mine ou prendre une plume et écrire sur une feuille blanche. C'était des feuilles qui étaient plus difficiles. Le papyrus sur lequel sans doute ça a été écrit, ça coûtait cher. Ça demandait une expertise particulière d'être capable d'écrire. Paul lui-même n'était probablement pas celui qui écrivait ses lettres. Dans une de ses lettres, il mentionne à la fin, « Je vous salue, voyez, en comme les grosses lettres dans lesquelles je vous écris. » Donc, probablement qu'un scribe était capable d'écrire de façon minutieuse, mais même Paul devait faire des grosses lettres pour écrire sur le papyrus. Alors, on a un 18 versets où l'histoire nous est essentiellement répétée encore une fois. Lorsqu'il y a de la répétition dans la Bible, ça veut dire que c'est vraiment important. Ça coûtait cher, répéter, et ça prenait du temps, ça prenait une grande expertise. Et tout ce passage-là, c'est plus de 70 versets, c'est un des épisodes les plus longs du livre des Actes. C'est parce que c'est un des épisodes, c'était, et particulièrement pour les Juifs de l'époque, c'était fondamental. C'était, ça changeait leur monde. De vraiment comprendre que Dieu avait ouvert l'accès à la repentance et au pardon des péchés auprès des non-Juifs aussi. Alors, Pierre réexplique tout ce qui s'est passé, les quatre preuves que Dieu lui a données. Le fait qu'il y a eu cette vision-là avec les nappes, que l'Esprit lui a parlé et dit « va avec ces hommes qui s'en viennent ». Le fait qu'il se rend compte que Corneille avait eu une vision lui aussi, qu'un ange lui était apparu, et ensuite qu'ils ont reçu le Saint-Esprit de la même façon qu'eux. Et là, à la fin, Pierre pose la question, verset 17, « puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus, qui étais-je moi? » Et il dit un peu implicitement, « Qui êtes-vous pour m'opposer à Dieu? Qui sommes-nous pour nous opposer à ce que Dieu avait fait? » Et après avoir entendu cela, ils se calmèrent ou ils se turent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, « Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. » La repentance afin d'avoir la vie. Wow! Wow! Ça, ça changeait le monde d'un juif. Et on va voir à travers les livres des Actes aussi, dans quelques chapitres, on va voir qu'ils vont même avoir besoin d'une grande conférence où certains vont dire, « Non, non, les non-juifs, ils doivent se faire circoncire, ils doivent obéir à la loi de Moïse. » Puis Pierre va revenir ramener cette histoire-là et dire, « Non, non, ils ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous. Ils ont cru sans avoir été circoncis, sans avoir obéi à la loi de Moïse. » Et c'était pas facile pour les Juifs de l'époque de comprendre ça. Ça avait pris 4 manifestations directes de la part de Dieu pour que Pierre lui-même, qui avait passé ses années avec Jésus, en vienne à cette conclusion-là et soit prêt de le dire de façon hardie. Quels sont nos propres préjugés aujourd'hui? Je vais terminer avec cette application. Je pense qu'il n'y a personne d'entre nous ici qui est juif ce matin et qui croit qu'on a besoin d'être circoncis pour obéir à Dieu, pour les hommes. Alors, on n'a pas de préjugés défavorables envers les non-juifs. Je pense qu'il n'y a personne d'entre nous. Peut-être qu'on a un petit peu de sang de descendants juifs ici et là, mais aucun d'entre nous, je pense, là, mais on n'a pas une majorité de juifs parmi nous. Alors, c'est pas difficile pour nous de comprendre que les non-juifs sont joints à l'Église de Dieu. Cependant, on peut avoir toutes sortes d'autres préjugés défavorables. Avoir l'impression que peut-être des gens de certaines nationalités sont moins dans la faveur de Dieu. Pendant des siècles, c'était très difficile pour des chrétiens qui voulaient aller être missionnaires dans des pays musulmans d'avoir un soutien des autres chrétiens. Ils se disaient, non, c'est sûr qu'ils ne voudront pas. Et il y avait comme des œillères de penser que c'est sûr que les gens qui sont musulmans, ils n'ont aucun intérêt, ils ont rejeté la foi. Donc, les chrétiens qui voulaient aller comme missionnaires parmi les pays musulmans, c'était quasiment impossible. Il y avait la persécution aussi. Mais le Seigneur est en train d'ouvrir une brèche en ce moment, pas de façon aussi théologiquement significative que Dieu a fait à l'époque de Corneille parmi les non-juifs. Mais le Seigneur est en train de faire une grande brèche aujourd'hui parmi les musulmans à travers le monde. Et c'est vraiment un privilège d'habiter dans cette époque où le Seigneur même amène des milliers, des dizaines de milliers de musulmans ici à Montréal pour être nos voisins, pour être nos collègues, pour être les collègues de classe de nos enfants. Plusieurs d'entre nous, on peut avoir des préjugés envers les Arabes ou envers les musulmans, ou ça pourrait être envers n'importe quelle autre religion. Ah, témoin de Jéhovah. Peu importe. Ouf, ah, lui c'est un Français. Non, les Français, ça vaut pas la peine. Ou quelqu'un qui vient de l'autre pays d'à côté de chez vous, du pays où vous venez, où vous avez certaines rivalités aussi internes, ou avec le pays d'à côté, ou avec la ville d'à côté. Souvent, notre aveuglement ou nos préjugés sont inconscients. On n'est pas délibérément conscient qu'on ne veut pas apporter l'Évangile ou l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent. Mais on est tous un peu aveugles à nos propres préjugés. On juge en une fraction de seconde, et on place les gens dans des catégories. Quelqu'un qui pourrait répondre à l'Évangile, quelqu'un qui, ah oui, il y a des bonnes chances, ou ah, ça c'est perdu d'avance. À quoi bon essayer? Peut-être que c'est la façon que la personne s'habille, la richesse, la pauvreté, ou quelqu'un que tu aimes, quelqu'un dans ta famille, ton père, un de tes enfants. Il dit, ah non, ça c'est peine perdue. Pourtant, on vient de voir dans les Actes les conversions de deux hommes très improbables. Et on voit la puissance de l'Évangile qui a été manifestée. John Stott, théologien évangélique, dans son commentaire sur les Actes, dit, il parle de la puissance de l'Évangile qu'on vient de voir dans la conversion de Saul et de Corneille. Il dit, Luc, l'auteur des Actes, a maintenant raconté les conversions de Saul et Corneille. Les différences entre ces deux hommes étaient considérables. Au niveau de la race, Saul était juif et Corneille, païen. Au niveau de la culture, Saul était un érudit, Corneille, un soldat. Au niveau de la religion, Saul était un bigot, un persécuteur, et Corneille, un chercheur. Pourtant, tous les deux se sont convertis par l'initiative gracieuse de Dieu. Les deux ont reçu le pardon des péchés et le don de l'Esprit, et les deux furent baptisés et accueillis dans la famille chrétienne sur un pied d'égalité. Ce fait témoigne de la puissance et l'impartialité de l'Évangile de Christ, qui demeure la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, d'abord pour le Juif, puis pour le païen. N'oublions pas qu'aux yeux de Jésus, il n'y a personne qui est plus invité qu'une autre à se tourner vers lui, ou personne de moins invité qu'un autre. Jésus est allé vers Zachée. Jésus a accueilli les 10 lépreux. Jésus est allé parler à la femme samaritaine qui avait eu 5 maris plus un qui n'était pas son mari. Et Jésus est aussi allé manger chez les pharisiens orgueilleux et hypocrites, à qui nous pouvons peut-être plus ressembler parfois. Jésus est allé chercher probablement le plus grand persécuteur de l'Église de son époque, en Saul. Il est allé chercher un envahisseur, un centurion romain, symbole de l'oppression romaine. Alors, quelle que soit ta situation ou celle de ceux que Dieu place autour de nous, nul n'est disqualifié pour le salut. Parce que le salut ne dépend aucunement de nos qualifications, mais uniquement de celle de Christ à notre place. Dieu a choisi d'accorder sa grâce à ceux qui ne le méritent pas, à des gens comme toi et des gens comme moi. Dieu a ouvert l'Évangile aux nations, aux enfants, aux hommes, aux femmes, aux riches, aux pauvres, aux éduqués, aux simples. J'aimerais terminer par une histoire. Un court témoignage qu'un homme qui s'appelle Antoine Gilardi, un évangéliste, qui était évangéliste particulièrement parmi les musulmans en France, il est venu il y a quelques années à notre église à l'été 2014, je pense, pour faire une formation au niveau de mieux comprendre nos voisins, nos amis musulmans, puis comment on peut être un bon témoignage auprès d'eux. J'ai tiré ça d'un petit article qu'il avait écrit sur Internet. « Monsieur Gilardi est avec le Seigneur maintenant. » Il est décédé il y a 2 ans du cancer. Mais son témoignage est remarquable. Il dit ceci. « Né à Beyrouth, dans un quartier dit chrétien, j'ai grandi avec un sentiment de haine envers les musulmans. En 1975, pendant mon service militaire, la plus terrible guerre civile que les Libans aient jamais connue a éclaté. Cela n'a fait que renforcer ma haine des musulmans. Il y avait une contradiction en moi entre les paroles de Jésus que je lisais comme « aimez vos ennemis » et le désir de défendre mon pays. Je voulais chasser nos ennemis, même par la force. Il mentionne qu'il a passé à 2 doigts de faire partie, ça il nous l'avait dit, là, essentiellement de prendre les armes pour aller combattre ses ennemis. Mais finalement, il a quitté le Liban où il était né. C'est quand j'ai compris quelques mois plus tard que Jésus était mort sur la croix pour mes fautes que le miracle a eu lieu. Je me suis senti léger, pardonné, rempli de la paix, de la joie et de l'amour de Dieu. Le Seigneur m'a alors montré qu'il aimait les musulmans et était mort aussi pour eux. La haine pour les musulmans et les arabes a disparu de mon cœur. Aujourd'hui, je leur parle de Jésus et je vois des arabes, des berbères, des arméniens, des turcs, vivre ensemble le pardon et la réconciliation. Grâce à Jésus, le pardon n'est pas une utopie. Et il a créé des groupes en France, des groupes Oasis, qui étaient un témoignage auprès des gens d'origine musulmane ou d'arrière-plan des gens musulmans. Et le Seigneur s'est servi de lui un peu comme un pionnier en Europe pour être un témoignage dans les pays de l'Ouest de l'Europe auprès des immigrants. Lui-même, immigrant, avait découvert l'amour, le pardon de Dieu et son amour non seulement pour lui, mais pour les gens de toutes les nations. Prions. Seigneur, on te rend grâce que tu es un Dieu qui n'est pas comme nous, que tu aimes des gens rebelles et pas aimables comme nous le sommes souvent. Seigneur, merci parce que tes yeux de compassion s'étendent au-delà de nous-mêmes. Merci pour l'exemple de Jésus qui s'est tourné vers ceux qui étaient rejetés, vers ceux qui étaient mal aimés. Merci pour cette assurance, Seigneur, que si nous nous sentons de cette façon, si nous nous sentons rejetés ou mal aimés, tu nous accueilles et tu nous appelles à venir à toi, que tu nous aimes. Tu as donné Jésus pour quelqu'un tel que nous, tel que moi. Seigneur, on te demande d'éclairer notre compréhension. Seigneur, il y a des coins sombres à chacun de nos cœurs qu'on a de la difficulté à percevoir. Du mépris, de la haine, de l'indifférence envers des catégories de personnes parce qu'on ne les connaît pas. Ou parce qu'on nous a fait du mal. Seigneur, on te prie que tu puisses, si on a besoin d'apprendre à pardonner, que tu nous apprennes le pardon. Que tu nous apprennes l'amour, Seigneur. Que tu nous aides, comme Jésus, à aller souffrir et mourir pour ceux qui étaient apparemment autrefois nos ennemis, pour leur apporter le message de la réconciliation. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.